France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Bonsoir à tous. Aider l'Ukraine sur la durée, c'est l'appel d'Emmanuel Macron aux industriels de l'armement. Le chef de l'État qui continue à évoquer le concept d'économie de guerre. Y va-t-on ou pas? On posera la question à l'expert des informés, le général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant de l'OTAN, à la transformation des capacités militaires. Au menu également des informés, 89% des Européens veulent que la transition énergétique progresse, mais, il y a un mais, 45% veulent le faire prudemment. On décryptera cette étude de l'Institut CSA pour Engie et la Fondation Jean Jaurès, qui a été menée dans 10 pays européens, avec des craintes sur l'emploi, sur la croissance et la compétitivité des entreprises, où l'on découvre que les Français apparaissent comme les plus informés, les plus volontaires et les plus actifs sur cette transition, mais aussi les plus inquiets sur ce que ça coûte. Et puis, connaissez-vous l'effet Édredon? On parlera de cette dose de proportionnelle que souhaite introduire Yael Braun-Pivet pour les prochaines législatives. Une dose seulement pour limiter la progression des extrêmes. On est avec François Miguet, grand reporter au service économie du Point, Stéphane Zumsteck, directeur du département opinion et politique d'Ipsos, et Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste à Paris pour le média britannique Télégraphe. Bonsoir et bienvenue à tous. Alors, faut-il parler d'économie de guerre, d'effort de guerre? On va se poser la question du vocabulaire qui est importante, alors qu'Emmanuel Macron a passé une partie de la journée à Bergerac, en Dordogne, pour lancer une usine de poudre à canon. 1200 tonnes seront produites dès l'an prochain, 10 fois plus que la production actuelle. C'est sur le site de Reinco. On va en parler. Le chef de l'État qui appelle à un effort durable des industriels de l'armement et qui ferme, vous allez entendre, l'hypothèse d'une augmentation des impôts.
Nous, on a une stratégie claire. Baisser les impôts pour relocaliser, être le pays le plus attractif en Europe. Nous le sommes depuis 4 ans. Réindustrialiser, ce que nous sommes en train de faire. On recrée de l'emploi industriel. Créer de l'emploi, on en a créé plus de 2 millions et baisser de 2 points le chômage. Et donc, faire avancer le pays. Donc oui, l'investissement dans notre industrie, France 2030, dans l'innovation, l'investissement aussi dans notre recherche, notre innovation, l'investissement dans notre défense crée de l'emploi. Et donc ce faisant nous permet de baisser les dépenses sociales qui accompagnent et permet de créer de la richesse pour tout le pays.
Voilà, il y a évidemment de la politique dans tout ça. Un Bruno Le Maire qu'on a aperçu, pour ceux qui nous suivent, à l'image, juste derrière Emmanuel Macron. Mais on va se concentrer d'abord sur la partie défense de tout ça, si vous le voulez bien. Bonsoir Général Jean-Paul Paloméros.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être notre expert sur ce dossier. Ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandant de l'OTAN à la transformation des capacités militaires. Ça n'arrive pas un peu tard pour l'Ukraine, cette hausse de la production de poudre? Et est-ce que c'est pour l'Ukraine ou pour la France et sa souveraineté?
Écoutez, j'allais dire les deux. Alors pour répondre à votre question, bien sûr, depuis le début de cette guerre, qui est un scénario quand même très original, difficile à prévoir, les pays occidentaux, d'une manière générale, ont un retard par rapport aux besoins de l'Ukraine, aux besoins de sa stratégie. Mais là, ça fait quand même, il faut le reconnaître, plusieurs mois, y compris sur vos antennes, qu'on annonçait quand même cette chronique d'un déficit de munitions, de munitions solaires. Et il faut qu'on soit poussés les uns et les autres. Hein. C'est vrai dans tous les pays. Par l'urgence pour se rendre compte qu'il y a un effort considérable à faire si on veut tenir notre engagement vis-à-vis de l'Ukraine.
C'est vrai, mais simplement les chiffres, on pourrait en citer beaucoup. La Russie a fabriqué en 2023 pratiquement 2 millions d'obus, la France 30 000. Et on pourrait multiplier les exemples. C'est en ce sens hein, que la question se pose. Et alors, on va écouter parmi les nombreuses voix qui s'inquiètent de ce retard et pour qui tout ça est insuffisant par rapport aux besoins. On va écouter Cédric Perrin, le sénateur LR du territoire de Belfort, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. On est loin, loin de l'économie de guerre, dit-il.
Les augmentations qui sont dans les tuyaux resteront évidemment insuffisantes par rapport aux besoins. Je rappelle quand même que la Russie a fabriqué 1,9 million d'obus de 120 et de 152 en 2023 et que la France, elle, en a produit 30 000. et que finalement, derrière tout ça, le vrai sujet, c'est celui de l'argent. Parce que l'économie de guerre, dans l'histoire, c'est quand même quand on consacre à son économie au moins plus de 8% du PIB à la défense. Aujourd'hui, les Russes y consacrent 6%, nous sommes à 2%, et donc, moi, je me bats pour dire depuis un certain temps que nous ne sommes pas en économie de guerre, compte tenu de ce que nous faisons aujourd'hui pour y être.
Général Palomeros, vous aussi, cette expression d'économie de guerre, elle vous chagrine? On y va ou on n'y va pas?
Moi, je suis d'accord avec le sénateur Perrin. On n'est pas en économie de guerre, ça fait bien longtemps qu'on n'y est plus. La dernière fois qu'on a été en économie de guerre, quand on y réfléchit bien, c'est quand la 4e République, plus le général de Gaulle, ont décidé que notre pays devait accéder à la dissuasion nucléaire. Là, à l'époque, on devait être à peu près à 5% de notre produit intérieur brut, en pleine croissance.
On considère que c'est 8, est-ce que c'est exact, 8% du PIB, techniquement? Pierre, on peut débattre, mais...
On va pas se battre pour les pourcentages, mais ça serait déjà énorme si on atteignait ce chiffre-là. Sachant qu'il ne suffit pas de mettre de l'argent. Il faut reconstruire toute la chaîne de production, comme l'a vu le président à Bergerac aujourd'hui. Et ça prend du temps. Il faut trouver les composants, et ça devient de plus en plus difficile. Il est clair que M. Poutine, il a un temps d'avance, puisqu'il a monté vraiment, lui, son économie de guerre, au détriment d'autres priorités pour sa population. Une économie de guerre, ça veut dire des choix, ça veut dire qu'on reconvertit éventuellement de l'industrie civile vers le militaire, ça veut dire qu'on fait des choix d'approvisionnement au profit du militaire, ça impacte directement la vie. Ouais, pour l'instant, c'est pas le cas.
Stéphane Zunzeg, ce terme d'économie de guerre qu'Emmanuel Macron répète à l'envi, alors que bon, la plupart des spécialistes, que ce soit côté économie ou côté défense, disent qu'on n'y est pas. C'est étrange, cette façon quand même de maintenir.
Oui, c'est évidemment un terme utilisé de façon un peu abusive. C'est pas ça, l'économie de guerre, évidemment. Le général vient de le dire. Enfin, on a l'impression qu'on est en pleine Première Guerre mondiale et qu'on doit tenir pendant 4 ans. Bon, c'est évidemment.
L'économie de guerre, c'est clairement, on sort de l'économie de marché, c'est l'État qui passe.
Bien sûr, avec des réquisitions, et voilà, et on n'en est pas là.
Les fabricants de lave-linge font des tanks.
Malgré tout, on retrouve tous les ingrédients, d'un Emmanuel Macron qui essaye à nouveau de dramatiser la crise ukrainienne, en tout cas de s'en servir. Alors, pour deux raisons, enfin, pour plusieurs raisons. D'abord, pour apparaître comme une sorte de leader de l'Europe en pointe dans le soutien à l'Ukraine, et sur le front intérieur, pour remettre au cœur aussi des préoccupations la réindustrialisation dans ce contexte économique qui est dégradé, avec les chiffres du chômage. On parlera sans doute du pouvoir d'achat et de l'inflation plus tard, mais en tout cas, des chiffres du chômage qui remontent, et pour dire, ben voilà, la dépense publique et le réarmement quelque part militaire de la France, ça sert à ça. Je suis pas persuadé.
Dramatisation.
Toujours, et aussi dans un but électoral, évidemment, pour qu'on ne parle, et on parle pas que de ça, mais qu'on parle essentiellement de ce sujet, en essayant de rejouer finalement la même tactique qu'il y a 5 ans qu'il y a 2 ans, lors de l'élection présidentielle. Je ne suis pas sûr que ça marche cette année, d'autant plus qu'il y a quand même quelque chose de totalement paradoxal et qui contribue, à mon avis, à brouiller le message du président de la République. C'est que, très bien, on va produire plus on ouvre une usine de poudre, on va produire plus d'obus pour aider l'Ukraine, pour se réarmer soi-même et pour renouveler les stocks de l'armée française. Mais à quel coût, alors même que ça fait des semaines et des semaines que, quelque part, les Français sont matraqués par une actualité qui ne parle que des déficits publics. Donc là encore, je ne suis pas sûr que cette visite et que ces déclarations suscitent un certain enthousiasme auprès de l'opinion publique.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
En grande conversation, les informés sur la notion d'économie de guerre. François Miguet est là pour Le Point, Stéphane Zunzeg pour Ipsos, Anne-Elisabeth Moutet pour Télégraphe, et avec nous le général Jean-Paul Palomeros. Économie de guerre ou pas, François Miguet? On a le sentiment quand même qu'on tourne autour de cette notion, que le président de la République la remet sur le tapis. Votre regard à vous.
Oui, alors on comprend qu'Emmanuel Macron veut faire de la communication, marquer les esprits avec ce terme qui est très puissant d'économie de guerre, mais il faut bien se rendre compte que monter à 2% la part de la richesse nationale par an, la part de l'investissement dans l'armement, finalement, c'est nous mettre, je parle sous le contrôle du général Palomeros, au niveau des préconisations de l'OTAN, en vérité. La Russie est en économie de guerre aujourd'hui, bien sûr. Elle investit une part de son PIB qui est très conséquente. Elle est en quasi-autarcie. Elle a réorienté un certain nombre de ses industries vers l'armement. Elle est en guerre, donc elle est en économie de guerre, ça c'est clair. La France n'est pas en économie de guerre, d'abord et surtout parce que la France n'est pas en guerre. En revanche, elle augmente la part de sa richesse qu'elle consacre à l'industrie de l'armement.
Les Russes, vous diriez, général Palomeros, qu'ils sont en économie de guerre? Il ne semble pas qu'on soit non plus à ce stade.
En fait, ils le sont depuis déjà un certain temps. Ce dont on ne s'est pas rendu compte, on n'a pas voulu se rendre compte essentiellement en Europe, c'est que les grandes puissances, les États-Unis, la Chine qui investit énormément, et la Russie, si vous voulez, ils ont pris leur élan depuis bien longtemps parce que, je ne sais pas, ils ont décidé que ce siècle serait le siècle des confrontations et la Russie s'y est préparée. Maintenant, elle a accentué ces dernières années son effort. Mais la Russie était prête et sa machine productive était prête.
Une économie de guerre, juste pour bien, encore une fois, comprendre. Si on prend les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est plus de 30-35% de leur PIB qui est consacré aux dépenses militaires.
Quand l'urgence se prête, évidemment, à partir du moment où les Américains sont rentrés dans la Deuxième Guerre mondiale avec un certain retard et on sait dans quelles conditions, il fallait produire, comme disait le général de Gaulle, d'immenses forces n'avaient pas encore donné et pensaient essentiellement à la force productive des États-Unis. Et aujourd'hui, les seuls qui puissent répondre vraiment aux besoins ukrainiens dans le court terme, même si l'Europe fait des efforts, ce sont les États-Unis, parce qu'ils ont une industrie qui, elle est peut-être pas sur le pied de guerre ou en économie de guerre, mais enfin, elle est productive parce qu'ils exportent beaucoup.
Bon, les Américains qui, pour l'heure en tout cas, on le sait, ont bloqué leur aide. Ça se passe au Congrès avec des considérations politiques qu'on a souvent décrites. Mais Anne-Elisabeth Moutet, votre regard, vous, là-dessus?
Oui, en France, on n'est pas en économie de guerre. Je rappelle que, par exemple, quand il a été question, parce qu'ils en avaient besoin à ce moment-là de la guerre, d'envoyer des chars en Ukraine, on avait un excellent char qui correspondait tout à fait aux besoins qu'ils avaient sur le terrain. Le Leclerc manque de bol, on a cessé de le produire il y a plus de 10 ans. Alors, il y a eu des choix qui ont été faits. Toute notre idée, c'était une guerre hybride, c'est une guerre asymétrique. C'est ce qu'on faisait au Mali jusqu'à une date récente. Et puis, on s'est retrouvé avec une guerre absolument conventionnelle sur d'ailleurs les territoires européens où avait eu lieu le même genre de guerre 70 ans plus tôt. Sur les États-Unis, alors les États-Unis, théoriquement, ils ont complètement cessé pour le moment, ils ont arrêté les packages d'envoi d'armes à l'Ukraine et il y a une bataille qui se passe non seulement au Congrès mais même au sein du Parti républicain, le Parti démocrate dans l'ensemble étant favorable à armer l'Ukraine. Parce qu'au sein du Parti républicain, vous avez tout de même des gens qui poussent contre ça, il faut très peu de sénateurs pour bloquer le projet. Cela dit, on constate, c'est assez amusant, il y a peu de temps, que l'état de pénurie est tel que les Ukrainiens ont des gens qui vont même dans des endroits où il y a des champs de mines pour ramasser des obus russes et les donner. Et on annonce qu'on a réussi à réunir comme ça 1 million d'obus. C'est pas un type ramassant tout seul des obus dans les champs, même minés ou surtout minés, qui est allé chercher brusquement et trouver 1 million d'obus. Et moi, et ça va passer par l'Estonie et je suis absolument persuadée que ça vient des États-Unis et que ça vient discrètement des États-Unis puisque la discussion a encore lieu au Congrès. Il y a toute une partie, je dirais, des gens qui sont actifs dans le milieu de construction militaro-industrielle américain qui n'ont jamais cessé de faire des projets pour armer l'Ukraine et de trouver des moyens, un petit peu d'ailleurs comme Roosevelt avant l'entrée en guerre des États-Unis en 1941, on avait trouvé toutes sortes de moyens pour malgré tout envoyer des armes aux Européens dans leur guerre contre Hitler. Donc je pense que ça n'a jamais complètement arrêté, ça n'est absolument pas assez. L'argument d'un certain nombre d'Américains, ça consiste à dire, écoutez, ce que l'Ukraine nous demande, c'est 5% de notre budget militaire, et c'est 5% de notre budget militaire pour essentiellement servir contre les gens pour lesquels on a fabriqué ces armes, parce que ces armes sont vraiment spécifiques, c'est pas des armes qu'on va utiliser contre la Chine, c'est pas des armes évidemment qu'on va aller utiliser contre les malheureux migrants au Mexique. Donc ce sont des armes qui sont faites pour tous les plans de guerre, c'est contre la Russie. Et le travail est fait par des gens qui vous demandent pas d'aller envoyer des gosses américains faire ça. Donc c'est tout bénéfice et c'est quelque chose qui va finir par passer dans le dialogue américain. Donc je suis plus optimiste, quel que soit le vainqueur des élections américaines, sur le fait que l'Amérique ne va pas lâcher.
Si on vient ici en France, oui, François Miguet.
Pardon, je voulais juste dire que pour que nos auditeurs comprennent bien, il faut mettre les chiffres en perspective. Il faut se rappeler que la France donc va consacrer maintenant 2% de son PIB chaque année à cet effort de réarmement. Mais si on regarde les États-Unis, qui sont bien plus riches, hein, ils consacrent chaque année 3,5% de leur PIB, Et il y a un certain nombre d'autres pays européens, évidemment plus proches de la Russie, comme la Pologne ou l'Estonie, qui sont à plus de 3% du PIB consacré à la défense chaque année. Donc on est juste en train de revenir un petit peu dans les clous. On s'est réveillé un beau matin, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez de munitions, qu'on n'avait pas assez de poudre pour se défendre soi-même, avant même d'aider l'Ukraine. Et on est en train de sortir de la torpeur dans un monde où, depuis les années 80, on a détruit aussi 2 millions d'emplois industriels dans le pays. Hein, l'industrie pèse plus que 10% du PIB français, quand en Allemagne, on est de mémoire à 16 ou 17%. Donc, c'est pas du tout une économie de guerre. Hein, c'est un réveil, c'est un sursaut français, le début du démarrage d'un sursaut français.
Général Palomeros, quand le président de la République parle d'un effort durable des industriels de l'armement, ça s'adresse aussi, enfin c'est aussi un levier de croissance. L'intérêt économique de tout ça compte dans ces propos-là, au-delà du contexte ukrainien, qui est finalement un révélateur en fait sur l'état de l'industrie de l'armement française.
Vous savez, pour construire une défense robuste, d'abord, il faut investir dans le temps. Il ne faut pas, alors que ce qui s'est passé depuis la fin de la guerre froide, c'est qu'on a désinvesti, ça a été souligné. Donc, cet effort, il est nécessaire pour que notre défense puisse tenir son rang au niveau de nos ambitions. Hein, c'est bien ça qui importe. Et c'est vrai que l'industrie de défense, vue par exemple des États-Unis, c'est productif. 800 milliards d'euros à peu près. 42, 43 en France, pour donner une comparaison non pas en pourcentage, mais en brut. Et ces 800 milliards d'euros, ils bénéficient directement à l'innovation, à la recherche. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties de là, des cartons des agences de recherche pour la défense, comme la création d'Internet, le New Space, et bien d'autres inventions, bien d'autres inventions de cette nature. Donc oui, l'économie de défense peut être productive, mais il faut que ça s'installe dans le long terme. Et puis, il faut trouver aussi les outils qui vont permettre, les ingrédients qui vont permettre à cette industrie de défense de fournir. Vous voyez la difficulté qu'on a pour construire, pour fabriquer de la poudre aujourd'hui. Il faut aller demander à Pierre, Paul et Jacques à peu près partout dans le monde pour arriver à construire quelques centaines de tonnes de poudre. C'est ça la globalisation oui. aussi. La mondialisation, elle a eu cet effet-là aussi sur les outils de défense.
Et en tout cas, c'est acter l'existence d'un besoin, d'un risque durable. Parce que c'est aussi ça, lancer cette industrie de défense, comme vous le dites très bien, c'est du long terme. Mais c'est aussi acter l'état du monde.
Mais ce besoin durable, on l'a affiché depuis des lois de programmation à des lois de programmation. Simplement, on n'a pas mis le geste à la hauteur de ce qu'on affichait. Vous prenez les différents livres blancs et lois de programmation depuis pratiquement la fin de la guerre froide, on avait des ambitions extraordinaires, sauf qu'on n'a jamais, tenu ce cap pour différentes raisons, parce qu'on n'y croyait pas, tout simplement, je crois. On ne croyait pas aux besoins. Bon, ben on est rappelé à nos devoirs par l'histoire. Voilà, il faut accepter ce fait, mais dans l'immédiat, ça demande des efforts, et c'est vrai que je veux voir si la France, nos concitoyens sont prêts à les accepter oui. avant que ça ne produise.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
On est ce soir en compagnie d'Anne-Elisabeth Moutet du Télégraphe, Stéphane Zumsteck d'Ipsos, François Miguet du Point. On parle de cette économie de guerre, on l'a bien compris, de l'appel d'Emmanuel Macron aux industriels de l'armement. Et puis cette sortie qu'il fait, et qu'il profite de ce déplacement avec plusieurs ministres, Sébastien Lecornu, Bruno Le Maire, avec lequel on sait qu'il n'est pas forcément totalement en face, pour fermer définitivement, comme il dit, l'hypothèse de la hausse des impôts. Il y a évidemment un lien dans tout ça, mais c'est intéressant d'essayer de comprendre ce qu'il fait là aujourd'hui Emmanuel Macron, François Miguet.
Oula, bah, y a beaucoup de sujets qui sont mélangés, en effet, mais c'est souvent le cas avec Emmanuel Macron. Évidemment, cette sortie, d'abord, le premier message, c'est de dire ça y est, la France réinvestit dans la poudre à canon, mais on peut le lier à d'autres messages aujourd'hui du gouvernement qui sont, au fond, toujours sur le même sujet de la souveraineté, donc les investissements dans les médicaments, les investissements dans l'énergie, la réindustrialisation qui a commencé à se mettre en marche dans le pays. Et puis oui, il en a profité pour adresser ce message sur le débat du moment, hein, qui est quelle réponse donner aux graves problèmes budgétaires du pays. Les finances publiques de la France sont très dégradées. Ça fait d'ailleurs des mois que Emmanuel Macron le sait. Il est bien placé pour le savoir. Les notes à Bercy et à l'Élysée circulaient déjà il y a 6 mois.
Et encore pas plus tard qu'il y a une demi-heure, la Banque de France confirme qu'elle s'attend à 0,2% de croissance au premier trimestre.
Voilà. Et donc, il faut évidemment prendre un certain nombre de mesures. Et bien sûr, parmi les mesures potentielles, il y a toujours la tentation de la facilité. Hein, parce que dans un pays où la pression fiscale est déjà à 46% de la richesse, c'est-à-dire champion de tous les pays de l'OCDE, champion d'Europe, hein, on a passé devant le Danemark, augmenter les impôts, c'est quand même un peu compliqué. Mais en tout cas, c'était une des voies. Donc Emmanuel Macron a voulu dire aujourd'hui qu'il n'allait pas emprunter cette voie-là. Ceci dit, il n'a pas non plus donné exactement le modus operandi de ce qu'il comptait faire pour trouver les 10 milliards qu'il va falloir trouver, puisqu'il a parlé d'un plan équivalent, si j'ai bien compris, à ce qui avait été déjà fait, donc le coup de rabot là, de 10 milliards. Et puis, c'était un message aussi politique, évidemment, c'était de dire... Je suis aligné avec mon ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui était justement derrière lui pour les caméras. Donc oui, un triple message.
Stéphane Zumsek, Emmanuel Macron, il sait où il avance quand il annonce tout ça. Et notamment, je ne sais pas ce que vous avez, vous, chez Ipsos, comme étude sur le soutien, où est-ce qu'on en est du soutien à la fois à l'Ukraine, mais à un investissement lourd en matière de défense.
En ce qui concerne le soutien à l'égard de la cause ukrainienne, il y a une chose qu'il faut rappeler, c'est qu'à aucun moment, les Français n'ont lâché l'Ukraine en termes de bienveillance, de compatibilité. L'Ukraine est l'agressé, il faut aider l'Ukraine, il faut que l'Ukraine gagne la guerre, il faut que Poutine la perde. Ça, c'est très très clair. En revanche, ce que l'on constate dans les différentes enquêtes d'opinion et la façon dont les choses évoluent mois après mois, c'est que le soutien financier, les efforts à faire, là, pour le coup, les Français sont moins catégoriques qu'au début. Avant, il y avait une majorité très clairement qui disait, bien sûr, que la France doit prendre sa part et doit aider financièrement, doit aider militairement, doit accueillir des réfugiés. Et ça, c'était très clair au début. Et la France faisait partie des pays européens qui étaient assez en pointe, au-delà des pays de la ligne de front, des pays d'Europe de l'Est, qui sont encore plus concernés et, évidemment, logiquement, beaucoup plus inquiets que les pays de l'Europe occidentale. Mais ça, on le voit bien aujourd'hui. Ce soutien à l'Ukraine se fracasse contre les préoccupations nationales, des préoccupations domestiques. On voit bien qu'avec les déficits publics, on voit bien qu'avec le pouvoir d'achat, avec les salaires qui n'augmentent pas, contrairement à ce qu'ont pu dire à un certain moment les représentants du patronat, eh bien les Français se disent finalement à quoi ça sert de continuer de payer pour une guerre où le front ne bouge quasiment pas. On est rentré dans une guerre d'usure, il y a eu l'échec de la contre-attaque ukrainienne.
Même à 1500 kilomètres,
ça commence à coûter trop cher. Les gens ne sont pas en train de se retourner, mais quelque part, de plus en plus, on voit bien ce... distille dans l'esprit des Français l'idée selon laquelle une solution militaire n'est pas possible. Ce sera probablement une solution diplomatique. Dans ce cas-là, pourquoi continuer à payer très très cher pour fournir des armes à l'Ukraine? Il n'y a pas de renversement, mais ce que je veux dire, c'est que les Français favorables à la poursuite de l'effort financier et militaire en faveur de l'Ukraine ont a légèrement baissé ces dernières semaines.
La cohérence de tout ça, vous la voyez où, vous, Anne-Elisabeth Moutet ?
La première chose que j'aimerais dire, c'est que vous savez qu'il y a deux chiffrages du montant de l'aide française à l'Ukraine. L'un a été fait par les fabricants et le gouvernement, et ça consiste à dire on a envoyé environ 2 milliards d'euros pour l'Ukraine, et l'autre consiste à dire oui, mais ça c'est compté quand vous comptez le coût de remplacement de matériel français probablement assez âgé, et que si on ne compte que ce qui coûte vraiment, c'est-à-dire des vieux trucs qu'on va remplacer, et ça frappe marché l'industrie par des trucs plus neufs, plus beaux et plus chers, c'est 700 millions seulement. Alors c'est un calcul qui a été fait par l'Institut Kiel en Allemagne, évidemment l'Allemagne qui n'envoie pas les armements stratégiques à l'Ukraine dont elle a besoin, en particulier les canons longue distance Taurus en ce moment, ce qui est un vrai problème politique, même entre la France et l'Allemagne. Elle, en revanche, elle a envoyé 17 milliards de matériel en Ukraine. Donc, en France, nous, on est très en arrière sur ce qu'on a envoyé. On a envoyé nos fonds de tiroir, littéralement. Et je ne crois pas que les gens en soient parfaitement conscients. La deuxième chose, c'est qu'il s'agit de savoir si on se désintéresse de l'Ukraine, à quel moment est-ce que nous sommes, nous, personnellement en danger, et ça va aller plus vite qu'on ne croit, puisqu'il y a déjà 3 pays limitrophes dont les politiciens ont été nommément fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, évidemment qui ne compte pas puisqu'il vient de la Russie, pays sanctionné, et ça comprend Kaya Kallas, la première ministre estonienne, mais ça comprend aussi François Hollande. Donc, ça veut dire à la Russie, c'est le jour où j'arrive, vous allez au goulag. Pour les Estoniens, c'est comme ça que c'est vécu. Alors, pour François Hollande, je ne pense pas que ça va lui arriver, mais il faut bien se rendre compte que, contrairement à ce qu'on croit, la Russie est extraordinairement agressive à l'égard de pays qui sont membres de l'Union européenne, pas seulement membres de l'OTAN, et donc aussi même à l'égard de politiciens français. Et il faut entendre Medvedev, l'ancien président quand Poutine a eu besoin d'être remplacé 5 minutes, et ce qu'il dit sur le président de la République. Je ne crois pas qu'on se rend compte de la violence des promesses russes qu'il faut croire.
Ils avaient notamment aussi pris une carte de France en pointant Marseille, Lyon et Paris, je crois, en imaginant des actions.